France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les syndicats CGT, CFDT furieux contre François Bayrou qui, à la mi-journée sur France Inter, a fermé la porte à un retour à 62 ans de l'âge de départ à la retraite. Agnès Soubiran nous dira si cela annonce de nouveaux claquages de porte au conclave des partenaires sociaux sur ce dossier des retraites. Il y a 5 ans, jour pour jour, Emmanuel Macron nous annonçait sa guerre contre le Covid. Dès le lendemain, le confinement était mis en place. 5 ans après, nous verrons comment la visio à distance s'est imposée dans nos codes sociaux. Journée houleuse en vue demain à l'Assemblée nationale. Les députés vont entamer l'examen de la proposition de loi sur le narcotrafic soutenue par Bruno Retailleau. Le texte divise au sein même de la Macronie. Aux États-Unis, nous verrons comment l'administration Trump se prive de ses moyens d'influence à l'étranger depuis qu'elle a brutalement démantelé les médias publics qui émettent à l'extérieur. Les salariés ont été priés ce week-end de rendre leur badge. Et puis avec quelques heures d'avance, nous fêterons ce soir la Saint-Patrick, ce sera demain le 17 mars. Et l'on verra, avec modération et sans faux col, que l'Irish Beer n'est jamais bien loin. Le temps de demain, lundi, Céline D'Acosta, ce sera plus calme que ces derniers jours.
Oui, on aura une alternance de nuages et d'éclaircies, et puis juste un petit peu de pluie encore pour la Corse.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Il a défendu sa méthode, François Bayrou, aujourd'hui invité de France Inter à la mi-journée chez Karine Bécard dans Questions politiques. Pas d'augmentation d'impôts en vue. Et concernant le dossier des retraites, on ne reviendra pas sur le départ à 62 ans.
Non.
Vous le dites clairement, 62 ans, c'est pas possible.
La conférence sociale, elle sait très bien, les représentants qui y participent savent très bien quel est le rapport numérique. Et j'ai fait établir par la Cour des comptes un bilan objectif financier. Et nous devons à tout prix avoir 2 discussions, une sur le privé, avec l'exigence de revenir à l'équilibre en 2030, ce qui a été constamment pour moi le contrat avec les organisations professionnelles et syndicales. Et deuxièmement, à se demander quelle méthode nous pouvons trouver pour ce qui est des retraites du public, pour qu'on ait à terme un retour à un meilleur équilibre des finances publiques.
François Bayrou parle d'un conclave, c'est le conclave sur les retraites, cette forme de concertation qui effectivement a été lancée à la fin du mois dernier, et en cas de blocage, le référendum pourrait être une solution. Alors depuis la mi-journée, donc les syndicats sont furieux contre ce non opposé par François Bayrou à un départ à 62 ans. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Les syndicats y voient tout simplement une forme de trahison.
Oui Eric, la colère est forte ce soir après seulement 2 véritables séances de concertation où il a été question de pénibilité, d'égalité homme-femme. Le Premier ministre clôt le débat. Tempête Denis Gravouille de la CGT.
Les propos de François Bayrou sont scandaleux et sont une entorse à sa propre parole. Nous étions censés discuter de toutes les mesures d'âge sans totem ni tabou. Et finalement, on a un interdit qui vient d'être posé de façon très claire par le Premier ministre.
Un interdit justifié en partie par le contexte international, ce que réfute la CGT.
La paix ne s'oppose pas au progrès social, c'est même le contraire. La paix permet le progrès social, donc il faut se battre pour la paix. La question se pose de la défense en France, mais ce n'est certainement pas aux retraités ou aux travailleurs qui souhaitent atteindre l'âge de la retraite de devoir le payer. Je rappelle juste que, par ailleurs, les 40 000 Français les plus riches ont vu leur patrimoine doublé depuis 20 ans.
Il en existe des solutions, renchérit de son côté François Omeril de la CFE-CGC.
Par exemple, le niveau de cotisation, il y a le taux d'emploi des seniors, il y a le taux d'emploi en général, il y a la productivité des emplois. Il y a en fait tout un tas de paramètres qu'on peut mobiliser. En fait, c'est une forme de punition des politiques. C'est tout à fait possible de revenir à 62 ans.
Alors, l'autre question ce soir est quel avenir pour la concertation, sachant que Force Ouvrière a déjà claqué la porte et que la CGT se pose sérieusement la question. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, défend lui ardemment la méthode et vient de redire sur BFM son attachement au dialogue social, appelant les syndicats à poursuivre les discussions.
Agnès Soubiran, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, Emmanuel Macron prenait la parole à la télévision pour nous alerter.
Nous sommes en guerre.
Voilà, les Français découvraient le confinement dès le lendemain pour cause de pandémie de Covid, une séquence hors norme qui allait durer un mois et demi, en favorisant une nouvelle forme de relation sociale entre collègues ou entre amis. La visio entrait durablement dans nos vies, Adrien Serrière.
Les Français et la visio, c'est une histoire d'amour qui a commencé maladroitement.
Est-ce que vous m'entendez ?
Entre les apéros Skype et les concerts improvisés, comme ceux du chanteur Raphaël, avec leur lot d'imprévus.
J'en ai pas pour longtemps.
À la sortie de la pandémie, le distanciel entre dans le vocabulaire du quotidien. Et aujourd'hui, un Français sur deux utilise la visio, proportion qui atteint des sommets chez les cadres et les 18-24 ans. Mais après avoir envahi nos usages, la visio a désormais atteint une forme de seuil.
Parce qu'en fait, il manque quand même des choses.
Sandra Wabian, la directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
Il manque toutes les sensations, les contacts physiques. Et puis, il y a une forme de fatigue aussi cognitive. Parce qu'il faut se concentrer de manière assez intense, aussi parce qu'il peut y avoir des problèmes techniques qui sont assez fréquents. La visio peut même un peu renforcer le sentiment un peu de solitude, parce qu'il manque de fluidité dans les échanges, et qu'on n'a pas la même dynamique de groupe, par exemple, quand on est dans une réunion ou dans un collectif en physique, que lorsqu'on en est en visio.
Entre les Français et la visio, le charme est donc un peu retombé, mais pour laisser place à une relation pragmatique, dont on imagine mal qu'elle se finisse un jour.
Et ce soir, Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du Covid. Il rappelle sur le réseau X combien, il y a 5 ans, les Français étaient ensemble, dit-il, pour faire face à cette épreuve. Raphaël Glucksmann, lui, met son parti en ordre de marche pour les futures élections. Son parti Place Publique était en congrès aujourd'hui à Paris sans aucun opposant face à lui. L'eurodéputé défenseur de l'Ukraine a lancé un appel à la résistance démocrate pour contrer ce qu'il appelle le fan club français de Trump et de Musk, qu'il désigne aussi par l'extrême droite. C'est une proposition de loi qui va agiter l'Assemblée nationale à partir de demain. Un texte pour renforcer la lutte contre le narcotrafic. Il a le soutien de Bruno Retailleau, mais il est loin de faire l'unanimité parmi les députés. Certains articles supprimés en commission pourraient être réintroduits en séance. Ça concerne par exemple ce qu'on appelle le dossier coffre qui braque les avocats, puisque la défense n'aurait alors plus accès à certains procès-verbaux. Une mesure retoquée donc, mais qui pourrait bien revenir en séance, ce qui inquiète Romain Boulet, le président de l'association des avocats pénalistes.
Jamais en France, les policiers et les magistrats n'ont eu autant de moyens intrusifs, qu'il s'agisse d'écouter, d'infiltrer, de capter, jusque, il faut que les Français le comprennent, dans nos foyers. Alors si cette extension des pouvoirs policiers peut être tolérée, c'est à notre sens uniquement à la condition que les citoyens soient en mesure de contrôler la régularité des procédures qui sont développées à leur encontre. Et le dossier coffre, c'est le fait de priver la défense d'accéder aux éléments de procédure. En clair, c'est un véritable permis de tricher qui est donné aux policiers et aux magistrats. Alors évidemment, pour l'opinion publique, quand on leur dit que ces mesures sont dirigées contre des trafics de drogue, le citoyen, il voit pas le problème. Mais en réalité, ce qui se joue ici et ce qui va se jouer la semaine prochaine dans les discussions devant l'Assemblée nationale, c'est la conception même de la justice et de ce qu'on appelle l'état de droit.
Un propos recueilli par Sarah Guibaudeau. Aux États-Unis, Donald Trump a viré les salariés des médias publics américains qui émettent à l'étranger des médias brutalement privés de subventions. Un mail a été envoyé ce week-end aux centaines de salariés pour qu'ils rendent leur badge, leur téléphone. L'accès au bureau leur est désormais interdit. Et cela concerne des médias historiques qui, jusqu'ici, contribuaient à diffuser à l'étranger l'influence américaine, une forme de douce puissance. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Les États-Unis vont donc se passer de ce soft power.
Oui, et quel soft power. Voice of America, fondée en 1942, 47 langues à travers le monde entier, une audience hebdomadaire de 350 millions de personnes. Voice of America, donc, ou encore Radio Free Asia, ou Radio Free Europe, fer de lance du journalisme libre en Europe de l'Est pendant la guerre froide. tous ces médias publics américains émettant à l'étranger qualifiés désormais d'éléments inutiles de la bureaucratie fédérale par décret de Donald Trump, un symbole des États-Unis à l'étranger, une rupture radicale qui accompagne le tournant géopolitique et idéologique de Washington. Alors les employés ne sont pas formellement licenciés encore, mais en congé administratif en attendant la fin définitive des programmes. Ces programmes qui ont joué un rôle majeur dans la pratique et la diffusion d'une information non censurée dans les pays totalitaires depuis 75 ans, un outil d'influence américaine, évidemment, qui avait bénéficié jusqu'ici d'un soutien bipartisan, mais que la Maison-Blanche considère désormais, selon ses propres termes, comme de la propagande radicale que les contribuables américains ne doivent plus avoir à financer.
Claude Guibal, rédaction internationale de Radio France. Donald Trump et Vladimir Poutine vont discuter ensemble la semaine prochaine de l'avenir de l'Ukraine. C'est ce que dit aujourd'hui sur CNN l'émissaire américain Steve Witkoff. Un rendez-vous qui fait suite à la proposition de trêve de Washington. En Macédoine du Nord, le bilan de l'incendie la nuit dernière dans une discothèque bondée est de 59 morts et plus de 150 blessés. Frédéric Saïs, la question de la corruption vient se greffer à ce drame.
Le ministre de l'Intérieur évoque une possible corruption. Selon lui, cette discothèque à Kotchani, dans l'est du pays, n'avait pas de licence en règle pour accueillir un concert géant, concert d'un groupe de hip-hop très populaire en Macédoine du Nord. 1500 personnes étaient présentes quand le toit de la boîte de nuit a commencé à s'enflammer vers 3h du matin. Piste privilégiée, un incendie accidentel causé par des engins pyrotechniques utilisés sur scène. Sur plusieurs vidéos du concert, on voit des étincelles qui montent vers la toiture. Selon les autorités macédoniennes, 4 mandats d'arrêt ont été émis, sans plus de précision. La Macédoine du Nord, pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, a reçu des propositions d'assistance de la part de ses voisins, la Grèce, la Bulgarie et l'Albanie. Le pape a transmis un message pour faire part de ses condoléances.
Et le pape qui se dit affaibli, je suis confronté à une épreuve, a-t-il déclaré aujourd'hui dans son message de l'Angélus. François a aussi remercié les fidèles qui prient pour lui depuis son hospitalisation il y a plus d'un mois pour une double pneumonie. Bonsoir Xavier Sartre.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Rome. À l'instant, le Vatican publie une photo du pape qui prie aujourd'hui dans la chapelle de l'hôpital.
Oui, pour répondre en effet à une demande qui se faisait insistante ces dernières semaines, le Vatican, donc pour la première fois depuis le début de l'hospitalisation, il y a près de 4 semaines, a publié il y a 10 minutes environ, une photo du pape prise ce matin lors de la messe. C'est dans la chapelle de son appartement à l'hôpital. On y voit François, il est assis dans un fauteuil roulant, photographié de 3/4 par derrière, donc devant l'autel. Peu de temps avant, donc vers midi, le Saint-Siège a publié, comme tous les dimanches depuis le 14 février dernier, le texte que le pape prévoit donc pour l'Angélus. Je traverse un temps d'épreuve, je m'unis aux frères et aux sœurs malades, fragiles en ce moment, comme moi. Si le pape François donc ne se fait pas voir, ou ne se faisait pas voir en tout cas, ni quasiment entendre depuis 4 semaines, il se confie comme jamais dans ce texte. Nos corps sont affaiblis, reconnaît-il, alors que son état de santé ne s'améliore que très lentement et que les médecins demeurent prudents. Le souverain pontife en profite pour remercier tous ceux qui l'assistent avec tant de dévouement, les enfants qui prient pour lui, et notamment ceux qui sont venus prier l'Angélus sous ses fenêtres ce midi. Le pape rend aussi hommage à l'hôpital, dans son ensemble. Combien de lumières y brillent, que d'attention aimante illumine les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l'on rend les services les plus humbles, écrit-il. Des lieux qu'il devrait encore fréquenter encore plusieurs jours. Le prochain bulletin médical devrait être publié mardi ou mercredi.
Xavier Sartre, en direct de Rome. Des négociateurs israéliens sont en ce moment en Égypte et ils discutent de la question des otages encore détenu par le Hamas. Est-ce qu'il laisse entrevoir une poursuite de la trêve à Gaza?
France Inter, Éric Delvaux.
En football, le football avec un match qui retient particulièrement notre attention ce soir, 26e journée de Ligue 1, le Classico à 20h45 au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain, leader du championnat, et son dauphin, l'Olympique de Marseille. Un match qui sera un peu spécial pour un joueur ce soir, c'est Adrien Rabiot. Il a été formé au PSG, il a passé 6 saisons au club parisien entre 2013 et 2019, mais ce soir, il portera le maillot de l'OM, ce qui reste très mal vu auprès des supporters parisiens, Julien Froment.
Devant le centre d'entraînement du PSG à Poissy, maudit supporter parisien l'admet, voir Adrien Rabiot avec le maillot de l'OM sur les épaules, ça lui fait quelque chose.
Ça me fait un petit pincement au cœur parce que je l'appréciais beaucoup. Alors s'il nous met un but, alors là, il est mort. Après, c'est un choix d'homme et c'est un grand garçon, il a fait son choix. Voilà, maintenant, il faut qu'il assume.
Jérôme Alonso est bien placé pour en parler. Il a porté le maillot de l'OM et du Paris Saint-Germain dans sa carrière. Le consultant foot pour Radio France estime que le milieu de terrain français a les épaules pour résister à la pression.
Le Parc des Princes aura une vraie haine envers Adrien Rabiot. Évidemment que l'accueil va être terrible pour lui. C'est un gamin qui est très fort mentalement depuis le début de sa carrière. Il n'y a pas de raison que ça change dimanche soir.
Un retour attendu fébrilement par le Paris Saint-Germain qui craint des débordements verbaux. Le club a mené une campagne ces derniers jours intitulée « Supporters, supportons ». L'entraîneur Luis Enrique y est allé aussi de son message d'apaisement.
C'est dans ces moments-là que les supporters devraient se focaliser uniquement sur le PSG. Il n'y a pas plus grande indifférence que de ne consacrer aucun moment à l'adversaire.
Et en cas d'arrêt définitif de la rencontre pour chant insultant ou homophobe, le club de la capitale, toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, risque la perte du match sur tapis vert.
Et ce sera demain une première dans le football européen, car pour la première fois, une arbitre transgenre supervisera un match international officiel. Une première donc selon l'UEFA, l'Israélienne Sapir Berman. Elle a 30 ans, elle a annoncé sa transition en 2021. Eh bien, elle arbitrera un match de qualification à l'Euro féminin des moins de 17 ans. Ce sera à Belfast demain, entre l'Irlande du Nord et le Monténégro. Le trèfle vert, là c'est l'Irlande, le trèfle vert qui s'apprête à déferler sur l'Irlande. On ne parle pas de rugby, mais bien de la Saint-Patrick. Ce sera demain, 17 mars. Une Saint-Patrick ambiancée dès ce week-end dans les pubs en avalant une pinte de bière. Mais d'autres ont choisi un hommage plus spirituel, un pèlerinage sur le St. Patrick's Way, un parcours de 130 km à travers l'Irlande du Nord. Il relie plusieurs lieux emblématiques que le saint aurait visités. Alors on part sur les traces du saint patron de l'Irlande, à pied donc. Écoutez ce reportage de Clémence Pénard.
Je vais vous montrer où nous sommes. Nous, on est arrivés par ce chemin. Saint Patrick, lui, serait venu en remontant la mer d'Irlande en bateau. Et il serait ensuite entré par le lac Strongford là-bas.
Chaque année, la guide Mary Sweeney prend le temps d'expliquer à quelques 2000 pèlerins que c'est ici que Saint Patrick a commencé, au 5e siècle, à évangéliser les païens de l'île.
En Irlande, on vénérait le soleil, les rivières. Saint Patrick n'a pas cherché à anéantir leur culture. C'est peut-être ça qui explique son succès. Là où il vénérait l'eau, il a béni les puits, qui sont devenus des sources sacrées. Ils adoraient aussi le soleil. Il y a donc superposé la croix, donnant ainsi naissance à la croix celtique.
Des routes de campagne paisibles aux majestueuses montagnes de Mourne, les randonneurs suivent un chemin de 130 km jusqu'à Dunpatrick où le saint est enterré. Tim Campbell y est le directeur du centre Saint-Patrick.
Je crois qu'avec le Covid, les gens ont cherché à dépasser l'esprit des pubs irlandais, cette ambiance chaleureuse pourtant si agréable. Mais vraiment, depuis le Covid, le pèlerinage a gagné en popularité.
Et Tim nous rappelle que la Saint-Patrick était d'abord un jour de piété, non de fête. Alors entre journée de prière et orgie d'alcool, les pèlerins semblent avoir trouvé un juste équilibre. Après une longue journée de marche, rien de tel, confesse Murrayed, qu'une petite Guinness.
Hail glorious Saint Patrick, dear. La Saint-Patrick irlandaise, oui, irlandaise, c'est bien ça, à partir de demain. Un navire de la marine nationale française vient de saisir au large des côtes africaines plus de 6 tonnes de cocaïne. Elle était stockée sur un navire de pêche immatriculé au Guyana. La valeur marchande de cette saisie est estimée à près de 371 millions d'euros. Les Français étaient invités ce week-end à ramasser les déchets un peu partout en France à l'initiative de la Fédération des chasseurs. Eh bien, dans le Doubs, il y avait 49 points de ramassage ce week-end à Lavèze, petite commune de 500 habitants du côté de Besançon. Ça fait déjà près de 20 ans que cette initiative existe, Laurette Puot.
On va faire comme on a l'habitude de faire chaque année.
Les équipes sont déjà faites, les itinéraires connus. La trentaine de participants prend deux sacs poubelles, des gants, un gilet orange et la collecte peut commencer. Gaëlle, habitante du village, n'en est pas à sa première fois.
J'essaie de respecter un maximum, surtout ma commune.
commune. Pour les enfants après.
Dans l'équipe du bord de route, il y a Baptiste, 7 ans, plus jeune participant. Sa maman Delphine l'accompagne.
Baptiste, ça le marque d'avoir une nature où il y a des déchets partout. Les gens jettent leurs déchets plutôt que de les mettre dans une poubelle. Donc lui, ça lui tient à cœur de ramasser pour qu'on puisse se promener dans des endroits propres.
S'il y a des mégots et des emballages plastiques au bord des routes, au moment du premier bilan, d'autres gros déchets sont impressionnants.
On a un vieux frigo, un vieux vélo. On trouve tout un tas de vieux grillages, enfin pas mal de déchets métalliques tout de même.
Benoît Pascal, président de l'association communale de chasse, se vézoie aussi référent environnement à la Fédération de chasse du Doubs.
C'est vraiment par période ou par moment. L'année dernière, je crois qu'on avait à peu près deux grosses remorques bien pleines. Et là, on va pas être loin de la même chose. En fait.
Les Vézois ont ensuite un point de ralliement avec deux autres communes voisines. Ils ont ramassé un total de 8 mètres cubes de déchets, ensuite acheminés au centre de tri.
Laurette Puot, un mot de cyclisme avec Matteo Jorgensen qui a remporté le Paris-Nice cet après-midi pour la deuxième année consécutive. L'Américain a validé sa victoire à l'issue de la 8e et donc dernière étape remportée en solitaire par son compatriote Magnus Sheffield. Ça s'est passé donc à Nice avec le retour du soleil après une semaine à braver la grêle, la pluie et la neige. De quoi parler du temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien demain, ce sera le retour du soleil.
Oui, et ça quasiment sur tout le pays. Alors le matin, on aura quand même pas mal de grisailles, de brouillard sur le nord-ouest, du centre-val de Loire jusqu'au Jura et dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va se dissiper assez rapidement. Ailleurs, les éclaircies seront déjà présentes. Et puis dans l'après-midi, là ça sera une alternance de nuages et d'éclaircies qui va se mettre en place avec un voile nuageux un petit peu plus dense entre les Pyrénées et la vallée de la Garonne. On aura juste quelques ondées encore en Corse.
Et cela dit, Céline, on aura encore bien froid au lever du jour.
Oui, de fréquentes gelées dans les terres, des valeurs qui descendront même parfois assez bas, hein, jusqu'à moins 6 degrés dans les vallées alpines et le Limousin. En revanche, les maximales continuent de grimper. Au meilleur de la journée, on attend 9 à 13 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 13 à 16 degrés sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes.
Les prévisions de Céline Dacosta.